Les touristes qui viennent d'Iona ont l'habitude de visiter cette grotte avec les embarcations du steamer d'Oban. Mais il est possible d'y pénétrer jusqu'à son extrême profondeur en débarquant sur les roches de droite où se trouve une sorte de quai praticable. C'est ainsi qu'Olivier Sinclair résolut de faire cette exploration sans employer le canot de la Clorinda. On sortit donc de Clamshell. On prit par la chaussée qui borde le littoral de l'Orient de l'île, l'extrémité des fûts enfoncés verticalement comme si quelque ingénieur eût battu là des pieux de basalte, formait un pavé solide et sec au pied des grandes roches. Cette promenade de quelques minutes se fit en causant, en admirant les îlots, caressés par le ressac dont une eau verte laissait voir jusqu'à la base. On ne saurait imaginer plus admirable route pour conduire à cette grotte, digne d'être habitée par quelque héros des mille et une nuits. Arrivé à l'angle sud-est de l'île, Olivier Sinclair fit gravir à ses compagnons plusieurs marches naturelles qui n'eussent point débarré l'escalier d'un palais. C'est à l'angle du palier que se dressent les piliers extérieurs, groupés contre les parois de la grotte comme ceux du petit temple de Vesta à Rome, mais juxtaposés, de manière à dissimuler le gros œuvre. À leur faîte s'appuie l'énorme massif dont est formé ce coin de l'îlot. Le clivage oblique de ces roches, qui semblent être disposées suivant la coupe géométrique des pierres de l'intrado d'une voûte, contraste singulièrement avec le dressage vertical des colonnes qui le supportent. Au pied des marches, la mer moins calme, sentant déjà les troubles du large, s'élevait et s'abaissait doucement, comme par un effort de respiration. Là se reflétait tout le soubassement du massif, dont l'ombre noirâtre ondulait sous les eaux. Arrivé au palier supérieur, Olivier Sinclair tourna à gauche et montra à Miss Campbell une sorte de quai étroit, ou plutôt une banquette naturelle qui suivait la paroi jusqu'au fond de la grotte. Une rampe, à montant de fer scellé dans le basalte, servait de main courante entre la muraille et l'arête aiguë du petit quai. « Ah !» dit Miss Campbell, « ce garde-fou me gâte quelque peu le palais de Fingal. » « En effet, répondit Olivier Sinclair, c'est l'intervention de la main de l'homme dans l'œuvre de la nature. »« S'il est utile, il faut s'en servir, » dit le frère Sam. « Et je m'en sers, » ajouta le frère Sib. Au moment d'entrer dans Fingal's Cave, les visiteurs s'arrêtèrent sur le conseil de leur guide. Devant eux s'ouvrait une sorte de nef haute et profonde, pleine d'une mystérieuse pénombre. L'écart entre les deux parois latérales au niveau de la mer mesurait 34 pieds environ. À droite et à gauche, des piliers de basalte, pressés les uns contre les autres, cachaient, comme dans certaines cathédrales de la dernière période gothique, la masse des murs de soutènement. Sur le chapiteau de ces piliers s'appuyaient les retombées d'une énorme voûte ogivale qui, sous clé, s'élevait de 50 pieds au-dessus des eaux moyennes. Miss Campbell et ses compagnons, émerveillés de ce premier aspect, durent enfin s'arracher à leur contemplation et suivre cette saillie qui forme la banquette intérieure. Là, se rangent dans un ordre parfait des centaines de colonnes prismatiques, mais de taille inégale, semblables au produit d'une cristallisation gigantesque. Leurs fines arêtes se dégagent aussi nettement que si le ciseau d'un ornemaniste en eût profilé les lignes. Aux angles rentrants, des unes s'adaptent géométriquement les angles sortant des autres. À celle-ci, il y a 3 pans, à celle-là 4, 5, 6, et jusqu'à 7 ou 8, ce qui, dans l'uniformité générale du style, met une variété qui prouve en faveur du sens artistique de la nature. La lumière venue du dehors se jouait sur tous ces angles à facettes. Reprise par l'eau intérieure, réfléchie comme dans un miroir, s'imprégnant aux pierres sous-marines, aux herbes aquatiques de teintes vertes, rouges, sombres ou jaunes clairs, elle allumait de 1000 éclats les saillies des basaltes qui plafonnaient en caissons irréguliers à la voûte de cet hypogée sans rival au monde. Au-dedans, régnait une sorte de silence sonore, s'il est permis d'accoupler ces deux mots. Ce silence spécial aux excavations profondes que les visiteurs ne songeaient pas à interrompre. Seul le vent y promenait un effluve de ses longs accords, qui semble fait d'une mélancolique série de septièmes diminuées, s'enflant et s'éteignant peu à peu. On eût cru entendre sous son souffle puissant résonner tous ces prismes comme les languettes d'un énorme harmonica. N'est-ce pas à cet effet bizarre qu'est dû le nom d'Annavin, la grotte harmonieuse, ainsi que cette caverne est appelée en langage celtique ? Et quel nom pouvait mieux lui convenir ? Dit Olivier Sinclair. Puisque Fingal était le père d'Ossian, dont le génie a su confondre en un seul art la poésie et la musique.
Sans doute, répondit le frère Sam. Mais comme le disait Ossian lui-même, quand mon oreille entendra-t-elle le chant des bardes? Quand mon cœur palpitera-t-il au récit des actions de mes pères? La harpe ne fait plus retentir les bois de Sébora.
Oui, ajouta le frère Sib, le palais est maintenant désert et les échos ne répéteront plus les chants d'autrefois.
La profondeur totale de la grotte est estimée à 150 pieds environ. Au fond de la nef apparaît une sorte de buffet d'orgue où se profile un certain nombre de colonnes d'un gabarit moindre qu'à l'entrée mais d'une égale perfection de ligne. Là, Olivier Sinclair, Miss Campbell, ses deux oncles, voulurent s'arrêter un instant. De ce point, la perspective s'ouvrant en plein ciel était admirable. L'eau, imprégnée de lumière, laissait voir la disposition du fond sous-marin, formé de bouts de fût ayant depuis 4 jusqu'à 5 côtés, enchâssés les uns aux autres, comme les carreaux d'une mosaïque. Sur les parois latérales, il se faisait d'étonnants jeux de lumière et d'ombre. Tout s'éteignait lorsque quelques nuages tombaient devant l'ouverture de la grotte, comme un rideau de gaz sur le proscénium d'un théâtre. Tout resplendissait, au contraire, et s'égayait des 7 couleurs du prisme, quand une bouffée de soleil, réverbérée par le cristal du fond, s'enlevait en longues plaques lumineuses jusqu'au chevet de la nef. Au-delà, la mer brisait sur les premières assises de l'arc gigantesque. Ce cadre noir comme une bordure d'ébène laissait leur entière valeur aux arrière-plans. Au-delà, l'horizon de ciel et d'eau apparaissait dans toute sa splendeur, avec les lointains d'Iona qui, à 2 milles au large, découpaient en blanc les ruines de son monastère. Tous, en extase devant ce féerique décor, ne savaient comment formuler leurs impressions.
« Quel palais enchanté !» dit enfin Miss Campbell. « Et quel esprit prosaïque serait celui qui se refuserait à croire qu'un dieu l'a créé pour les sylphes et les ondines ? Pour qui vibreraient au souffle des vents les sons de cette grande harpe éolienne ? N'est-ce pas cette musique surnaturelle que Waverley entendait dans ses rêves ? Cette voix de Selma dont notre romancier a noté les accords pour embercer ses héros ?
Vous avez raison, Miss Campbell, répondit Olivier. Et sans doute, lorsque Walter Scott cherchait ses images dans ce poétique passé des Highlands, il songeait au palais de Fingal.
C'est ici que je voudrais évoquer l'ombre d'Ossian, reprit l'enthousiaste jeune fille. Pourquoi l'invisible barde ne réapparaîtrait-il pas à ma voix après 15 siècles de sommeil? J'aime à penser que l'infortuné, aveugle comme Homère, poète comme lui, chantant les grands faits d'armes de son époque, s'est plus d'une fois réfugié dans ce palais qui porte encore le nom de son père. Là, sans doute, les échos de Fingal ont souvent répété ses inspirations épiques et lyriques dans le plus pur accent des idiomes de Gaël. Ne croyez-vous pas, monsieur Sinclair, que le vieil Ossian a pu s'asseoir à la place même où nous sommes et que les sons de sa harpe ont dû se mêler aux rauques accents de la voix de Selma?
Comment ne pas croire, Miss Campbell, répondit Olivier Sinclair, à ce que vous dites avec un tel accent de conviction.
Si je l'invoquais, murmura Miss Campbell.
Et de sa voix fraîche, elle jeta à plusieurs reprises le nom du vieux barde à travers les vibrations du vent.
Mais quel que fût le désir de Miss Campbell, et bien qu'elle eût appelé par 3 fois, l'écho seul répondit. L'ombre d'Ossian n'apparut pas dans le palais paternel.
Cependant, le soleil avait disparu sous d'épaisses vapeurs. La grotte
s'emplissait de lourdes ombres, la mer commençait à grossir au dehors, ses longues ondulations venaient déjà se briser bruyamment sur les derniers basaltes du fond. Les visiteurs reprirent donc l'étroite banquette à demi couverte par l'embrun des lames. Ils tournèrent l'angle de l'îlot violemment éventé contre lequel butait le vent du large, puis ils se retrouvèrent momentanément à l'abri sur la chaussée. Le mauvais temps s'était accru notablement depuis 2 heures. La bourrasque prenait du corps en se jetant sur le littoral d'Écosse et menaçait de tourner à l'ouragan. Mais Miss Campbell et ses compagnons, garantis par les falaises basaltiques, purent aisément regagner Clamshell. Le lendemain, sous un nouvel abaissement de la colonne barométrique, le vent se déchaîna avec une grande impétuosité. Des nuages plus épais, plus livides, emplirent l'espace en se maintenant dans une zone moins élevée. Il ne pleuvait pas encore, mais le soleil ne se montrait plus, même à de rares intervalles. Miss Campbell ne parut pas aussi contrariée de ce contretemps qu'on l'eût pu croire. Cette existence sur un îlot désert, fouettée par la tempête, allait à sa nature ardente. Comme une héroïne de Walter Scott, elle se plaisait à errer parmi les roches de Staffa, absorbée dans des pensées nouvelles, le plus souvent seule, et chacun respectait sa solitude. Plusieurs fois aussi, elle retourna à cette grotte de Fingal, dont la poétique étrangeté l'attirait. Là, rêveuse, elle passait des heures entières et tenait peu compte des recommandations qui lui étaient faites de ne point s'y aventurer imprudemment. Le lendemain, 9 septembre, le maximum de dépression s'était porté sur les côtes de l'Écosse. À ce centre de la bourrasque, les courants aériens se déplacèrent avec une violence sans égale. C'était un ouragan. Il eût été impossible de lui résister sur le plateau de l'île. Vers 5 heures du soir, au moment où le dîner les attendait dans Clamshell, Olivier Sinclair et les frères Melville eurent lieu d'être extrêmement inquiets. Miss Campbell, partie depuis 3 heures sans dire où elle allait, n'était pas encore de retour. On prit patience, non sans une anxiété croissante, jusqu'à 6 heures. Miss Campbell ne reparaissait pas. Plusieurs fois, Olivier Sinclair monta sur le plateau de l'île. Il n'y vit personne. La tempête se déchaînait alors avec une incomparable fureur et la mer, soulevée en vagues énormes, battait sans relâche toute la partie de l'îlot exposée au sud-ouest. « Malheureuse Miss Campbell !» s'écria tout à coup Olivier Sinclair. « Si elle est encore dans la grotte de Fingal, il faut l'en arracher ou elle est perdue !»